Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Que Dieu vous protège dans cette période de confinement. Oui, nous sommes toujours pendant cette période de confinement, on est le 26 avril et peut-être, il paraît que nous pourrions peut-être rouvrir l'église à partir de mi-juin, mais ce n'est pas encore certain. Quoi qu'il en soit, soyez prudents et de préférence, si vous pouvez trouver un masque, ce serait bien de le porter. Il est prouvé que le masque était et est toujours efficace pour freiner le virus nous atteindre. Ce matin, donc, j'aimerais partager avec vous sur notre réaction face aux problèmes. Vous savez, il y a des gens qui voient tout en mal ou tout en bien. On peut regarder la même chose et avoir deux avis différents. Par exemple, lorsque nous voyons un événement, on peut avoir un avis très positif ou très négatif. La question que je me pose, c'est est-ce que j'arrive à regarder les événements selon le regard de Dieu, ou bien je regarde tous mes problèmes ou toutes les choses qui se passent devant moi selon ma propre perception des choses. Est-ce que je remets tout ce que je vis entre les mains du Seigneur ou j'essaie de me débrouiller tout seul sans aide de personne? Par exemple, dans un couple, si on regarde que les défauts de l'autre, on ne s'en sortira pas. On a besoin de s'entraider, de faire des concessions, des compromis, de même avec les collègues, de même avec les amis et aussi avec nos voisins, que nous côtoyons peut-être un peu plus que d'habitude. Bref, comment je réagis dans les moments difficiles? C'est ça que j'aimerais voir avec vous, peut-être dans les situations d'urgence même. Pour cela, je vous invite à regarder un épisode d'Élisée dans 2 Rois 6, à partir de verset 1 jusqu'au verset 7, que j'aimerais vous lire. Les fils des prophètes dirent à Élisée: Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: Allez. Et l'un d'eux dit: Consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit: J'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors, Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: Enlève-le. Et il avança la main et le prit. Jusqu'ici notre lecture. Voilà, donc nous voyons à travers cette lecture biblique qu'il y avait des différents groupes de prophètes qui s'assemblaient pour étudier la parole de Dieu, pour approfondir la connaissance de Dieu, mais aussi pour exercer un ministère de prophète. Déjà à l'époque du prophète Samuel, que ces écoles existaient. Et à l'époque, Samuel, d'ici et là, enseignait auprès de ses prophètes ou futurs prophètes. Nous voyons aussi certains prophètes de ces écoles venir auprès de Élisée pour prévenir justement que son maître Élie allait être monté au ciel. En tout cas, ils exerçaient déjà un ministère, Et aussi, ils étaient quand même aussi besoin, ils avaient vraiment besoin aussi d'être entourés par un enseignant. Les prophètes dont il est question aujourd'hui doivent être probablement de Jéricho, proche du Jourdain, puisque les rives étaient riches en bois. L'école de Jéricho, l'école la plus proche de Jourdain, était donc l'endroit où Élisée enseignait aux autres prophètes au moment où justement nous lisons ce passage dans 2 Rois 6.1 que j'aimerais vous lire, le premier verset. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi et trop étroit pour nous. » Voilà, il est question d'un problème de croissance dans cette petite école. Apparemment, l'école marchait très bien. Il faut dire que Élisée était un bon enseignant et un enseignant populaire, puisque nous voyons la salle de classe est devenue trop petite. Et ce petit groupe qui se réunissait dans un endroit ne pouvait plus accueillir tous les élèves. Donc, comme je vous avais dit, c'est un problème de croissance. Je dirais même que c'est un bon problème. Et les élèves se rendent compte que l'endroit devient trop étroit pour apprendre par leur professeur itinérant. Au verset 2, je vous lis, « Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez !» Voilà jusqu'ici notre lecture, voilà, verset 2. Donc, pour agrandir ce lieu d'habitation, ce lieu, cette école, ce lieu de rassemblement, il décide d'agrandir ou faire peut-être une nouvelle construction pour pouvoir se rassembler en nombre plus important. Et donc les jeunes prennent l'initiative pour couper des arbres. Bien sûr, cette action a été approuvée par leur maître Élisée. Je continue la lecture. Verset 3. Et l'un d'eux dit, « Consent à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Voilà. Donc, non seulement les élèves étaient de la partie pour la construction, mais aussi, ils demandent à Élisée et à ses serviteurs de venir les aider, que le maître répond positivement. Il y a là une entraide entre le maître et les élèves. Je continue la lecture à partir de versets 4 et 5. Il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» Voilà jusqu'ici notre lecture. Voilà donc que pendant que les élèves coupaient du bois, un jeune prophète perd son outil. C'est-à-dire, ici, la hache qu'il avait empruntée a eu quelques problèmes et le fer est sorti de la manche, du bois, de la hache, et est tombé dans l'eau. Or, cette hache était assez coûteux à l'époque, surtout pour un pauvre étudiant qui n'avait pas les moyens. Donc, cette perte était grave et celui qui avait emprunté donc allait devoir travailler peut-être pour rembourser le matériel perdu. Peut-être même il devait abandonner ses études de prophète avec Élisée, ou peut-être abandonner même momentanément sa vocation pour rembourser cette hache. Et là, devant un problème assez grave, il s'écrie en disant « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. Il savait très bien que son maître n'était pas n'importe qui, mais un homme de Dieu qui réalise et qui avait réalisé des miracles auparavant. Je continue donc la lecture au verset 6 et 7. L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors, Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le !» Et il avança la main et le prit. Voilà jusqu'ici notre lecture. L'homme de Dieu dit, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, waouh, c'est super. Ce prophète Élisée est nommé comme l'homme de Dieu par la Bible, par la parole de Dieu. C'est-à-dire, il n'était pas n'importe qui. Il était un homme approuvé comme un homme de Dieu. Dieu, la parole de Dieu inspirée, approuve sa qualité d'homme de Dieu. Ça ne vous donne pas envie d'être appelé comme homme de Dieu, femme de Dieu? Ça me rappelle quand j'avais créé mon site personnel coréen, que vous ne connaissez pas puisque c'est adressé pour les Coréens. C'est un site pour les Coréens. Mon surnom était, que je m'étais donné, c'était « Homme de Dieu ». Car j'avais vraiment le désir de devenir l'homme de Dieu. Mais ici, il n'est jamais question que Dieu approuve cette qualité d'homme de Dieu. C'est moi qui m'étais donné ce surnom. Or, ici, dans la Bible, dans la lecture que nous venons de faire ce matin, c'est Dieu qui l'appelle comme l'homme de Dieu. En tout cas, j'aimerais un jour que le Seigneur m'appelle en disant « Tu es mon homme, entre dans ma maison fidèle serviteur. » Enfin, ça c'est mon souhait. Et puis, lorsque nous réfléchissons un peu les ministères exercés par Élisée, je pense qu'il est normal d'être appelé homme de Dieu, puisque vraiment, il a été fidèle dans toutes les choses. Et puis, il a été un fidèle serviteur, accompagnant son peuple. Et puis, lorsque le Seigneur lui a ordonné de faire certaines choses, il l'a fait. Par exemple, il a réalisé un miracle en faisant couler l'huile en abondance pour une famille endettée par un créancier. Et voilà, cette femme qui était endettée était obligée de donner ses deux enfants à un créancier. Mais voilà, Dieu, à travers Élisée, a fait intervenir et avec l'huile qu'il a fait produire miraculeusement, a permis cette famille de survivre par la suite. Et puis, un autre épisode, cet Élisée était un prophète itinérant et souvent il dormait chez une femme tsunamite. Et il voit que chez cette femme, chez ce couple, il n'y avait pas d'enfant. Donc, par la grâce de Dieu, il fait une prière d'intercession et cette femme tsunamite stérile aura un enfant. Donc c'est aussi un miracle. Et ensuite, par la suite, cet enfant, quelques années plus tard, il est mort suite à une maladie. En apprenant cette nouvelle, Élisée vient ressusciter cette mort avec l'aide du Seigneur. Voilà donc encore un grand miracle que nous voyons, bref. Et puis un autre miracle que je me souviens, il a aussi transformé l'eau amère, c'était un des premiers miracles qu'il avait réalisé après s'être quitté d'Élie. Il a transformé l'eau amère en eau pure, on voit ça dans chapitre 2, verset 21, je vous lis, il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Voilà donc, il y ajoute du sel dans cette eau, dans cette lac, et voilà donc, il a assaini ces eaux-là par la grâce de Dieu. Il a fait aussi multiplier des pains. Il a guéri aussi Naaman, le lépreux. Et voilà. Donc, il a vraiment manifesté la puissance de Dieu dans son ministère. Il a été toujours à l'écoute du Seigneur. Il a toujours été fidèle. C'est pour ça, je pense, qu'il a été appelé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'était pas seulement Élisée. De nos jours aussi, on pourrait voir beaucoup de personnes qui pourront être appelées hommes de Dieu. C'est ceux qui font justement la volonté, selon la volonté de Dieu, qui agissent selon la volonté de Dieu. C'est ceux-là qui sont des vrais hommes de Dieu. Nous pourrions, bien sûr, devenir des hommes et des femmes qui écoutent, qui font la volonté de Dieu. Et ainsi être appelé homme de Dieu. Je reviens à cette histoire d'Élisée, avec cet homme qui avait perdu la hache. Voilà donc cet homme qui avait perdu la hache avait partagé son sujet de prière avec Élisée. Et Dieu a pu exaucer en tout cas au travers d'Élisée. Je me demande pourquoi ne pas partager nos soucis avec les frères et sœurs en Christ, comme cet homme qui a partagé ses soucis avec Élisée. Exposons nos soucis avec les frères. Soyons aussi des intercesseurs les uns pour les autres. J'aimerais vous parler de cet épisode où Lazare était mort. L'homme avec qui Jésus était proche, on prévient Jésus de sa mort, et puis arrivé devant le tombeau, Jésus demande aux hommes d'enlever la pierre. Bien sûr, c'est Dieu qui réalise le miracle, et nous pouvons voir donc Lazare ressuscité de la mort. Dans cet épisode, non seulement Jésus, bien sûr, a travaillé, mais il a fait aussi travailler des hommes pour enlever la pierre. Vous savez que nous ne sommes capables de rien. En fait, il faudrait que nous soyons accompagnés par la grâce de Dieu, par Dieu lui-même. Mais nous pouvons enlever la pierre, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons participer dans le plan de Dieu. De même, nous pouvons intercéder les uns pour les autres. Nous pouvons faire quelque chose en exposant les faits, les problèmes, les soucis des autres au pied de la croix. C'est ce que nous devrions faire. Élisée, inspiré par l'Esprit, demande: où est tombée cette hache? Et après avoir vu l'endroit, il coupe un morceau de bois et jette dans l'eau ce morceau de bois. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se produit un miracle. Le fer, qui normalement ne peut pas flotter, flotte dans l'eau, sur l'eau. C'est vrai, c'est impossible d'après la loi physique. Mais Dieu réalise un miracle. Voilà donc une belle histoire pour cet homme qui avait perdu sa hache, ou plutôt sa hache à emprunter. Et on ne doit pas s'arrêter avec ce miracle. Souvent, vous savez, les images de l'Ancien Testament étaient symboliques. Il y a un symbole par rapport aux événements futurs. De la même manière, On pourrait réfléchir, mais quelle est la signification de ce bois mis dans l'eau pour faire flotter ce fer? Je dirais même le bois jeté par Élisée, qui a annulé la pesanteur du fer. De même, on pourrait penser que la croix du Christ, qui est en bois, efface notre culpabilité pesante du fer. En tout cas, à celui qui se repent devant le Seigneur. Voilà, donc le bois est représenté, le bois d'Élisée est représenté comme le bois, la croix du Christ, qui enlève tout notre péché. Quoi qu'il en soit, le jeune qui avait perdu la hache devait être soulagé. Et cette histoire a dû encourager les élèves qui étaient avec Élisée, en voyant cette puissance de Dieu qui a agi en leur faveur. C'est rassurant de savoir que Dieu accompagne dans mon plan de construction, par exemple. Je vais conclure. En ce moment, avec le confinement, nous sommes assez isolés les uns des autres. Et je dirais certains se contentent d'être isolés et restent chez soi sans prendre contact avec personne en fait. Moi, je vous encourage vraiment de faire des efforts, peut-être dans cette semaine. Si vous n'aimez pas le téléphone, écrivez au moins un texto pour prendre les nouvelles de chacun. Et puis, ne vous dites pas « Ah bah, personne ne me téléphone », mais en fait, chacun doit faire des efforts pour prendre les nouvelles de l'autre. Tout ça pour la communion fraternelle, tout ça pour intercéder les uns pour les autres, tout ça pour porter des fardeaux ensemble pour accomplir la loi du Christ. En tout cas, sachez que si vous avez des fardeaux, partagez pour alléger. Si vous avez des fardeaux, il faut remettre bien sûr devant le Seigneur, mais aussi, il est important de partager vos fardeaux avec vos proches, avec la famille de Christ. Prions maintenant. Seigneur, accorde-nous ta sagesse en toutes circonstances, que nous puissions vraiment réfléchir, agir, penser selon ta volonté. La sagesse de Dieu est folie aux yeux des hommes, parfois incohérent aux yeux des hommes, mais cette sagesse, nous savons très bien qu'elle renverse les raisonnements des hommes. Que nous puissions vraiment réfléchir, penser, agir selon cette sagesse qui vient d'en haut. Nous vivons en ce moment une situation assez particulière de confinement. Que tu puisses vraiment, Seigneur, nous inspirer pour qu'on puisse savoir comment agir, comment travailler, comment avancer, comment grandir aussi dans la foi. Parce que nous avons besoin aussi de grandir dans la foi, dans la maturité spirituelle, même si nous sommes éparpillés dans les différents endroits, même si nous ne pouvons pas nous réunir, accorde-nous, Seigneur, ta cohésion, que nous puissions vraiment vivre la communion fraternelle en peut-être prenant les nouvelles de chacun des autres, en intercédant les uns pour les autres. Nous avons besoin aussi que tu mettes ta bonne main dans la vie de chacun, que tu puisses vraiment intervenir, s'il te plaît, au nom de Jésus que nous te prions. Amen. J'aimerais qu'on chante dans « À toi la gloire » 261 pour terminer. « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure
Bon dimanche à tous.